France Culture.
L'image a cessé d'être sensorimotrice, image mouvement, dont découlerait une image indirecte du temps. L'image est devenue optique sonore pure et en découle une image temps directe, un cinéma de voyant.
Deleuze retrouvé. 16 leçons de philosophie. David Lapoujade.
À partir de la rentrée universitaire de 1981 et pendant les 4 années suivantes, Deleuze consacre ses cours à un domaine encore peu exploré par la philosophie, le cinéma. Quel concept philosophique peut-on extraire des œuvres cinématographiques? Les premières années sont consacrées à l'exploration de ce que Deleuze appelle l'image-mouvement, qui correspond approximativement au cinéma d'avant-guerre. C'est un régime d'images qui enchaîne action et réaction au service d'une narration souvent linéaire. L'extrait que vous allez écouter, tiré du cours du 31 janvier 1984, revient précisément sur le passage de l'image-mouvement à un nouveau régime d'images que Deleuze appelle l'image-temps. Huitième épisode, les transformations du cinéma, cours des 31 janvier et 13 novembre 1984.
Pendant longtemps, c'est l'image-mouvement qui a été déterminante. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait que cela. L'image-mouvement a été déterminante d'une certaine manière. Et de quelle manière elle était déterminante? Elle était déterminante parce que le montage s'exerçait sur elle, au pluriel, s'exerçait sur des images mouvement, si bien que, par l'intermédiaire du montage, on concluait des images mouvement, une image du temps qui, dès lors, était nécessairement une image indirecte du temps. Ce gros thème, je voudrais que vous, presque, si ça vous intéresse, que vous voyez comment, et aujourd'hui je vais encore plus sur ça, essayer de construire quoi, les thèmes d'une recherche. Alors, vous voyez, supposons qu'on ait cette idée. Peut-être qu'elle n'est pas vraie, je ne sais pas. Non. Mais immédiatement, on ajoute. Oui, mais, il ne faut pas exagérer. Dès ce temps-là, il y a des phénomènes qu'il faut appeler des aberrations du mouvement. Il y a dans l'image-mouvement cinématographique des aberrations du mouvement. Et s'il est vrai que l'image-mouvement, par l'intermédiaire du montage, nous donne une image du temps qui est nécessairement une image indirecte du temps, attention, les aberrations du mouvement telles qu'elles se présentent dans l'image-mouvement nous ouvrent peut-être déjà la voie d'une image-temps directe. D'où l'importance de ces aberrations du mouvement, et d'une certaine manière, le cinéma, depuis ses débuts, n'a pas cessé de concilier deux régimes. Le régime de l'image-mouvement tel que soumis au montage, il donne une image indirecte du temps, et le régime des aberrations de mouvement qui nous ouvrait ou laissait poindre une image-temps directe. Et les aberrations de mouvement, elles étaient aussi fondamentales que l'image de mouvement elle-même, aussi importantes. Simplement, elles risquaient, elles n'étaient sans doute pas perçues comme nous, maintenant, nous avons appris à les percevoir. Qu'est-ce qui nous a appris à les percevoir rétroactivement, d'une manière un peu nouvelle? Eh bien, c'était ce que je présentais comme l'événement fondamental. L'événement fondamental, il me paraît plus important que la révolution du parlant, encore une fois, car la révolution du parlant n'est qu'une révolution technique parmi beaucoup d'autres. Et jamais la technique n'a fait une révolution. Mais la révolution, c'était quoi? C'était que le rapport du mouvement et du temps allait se renverser. Et que, loin que l'image du temps découle des images mouvement, maintenant l'image mouvement dans ce qu'il en restait, n'était plus que la première dimension d'une image plus profonde. Cette image plus profonde, c'était une image tant directe. Le cinéma allait nous offrir des images tant. Qu'est-ce qui fondait ce renversement? Ce qui fondait ce renversement, c'était une mise en question de plus en plus poussée des lois de l'image-mouvement. Quelle était la loi de l'image-mouvement? La loi de l'image-mouvement, c'était le schème sensorimoteur. En quoi le schème sensorimoteur est-il loi de l'image-mouvement? C'est parce que l'image-mouvement, sous le schème sensorimoteur qu'il régit, nous présente un personnage dans une situation donnée qui réagit à cette situation et la modifie. Situation sensorimotrice. C'est la situation sensorimotrice qui allait être la règle des images-mouvements. De telle manière qu'en sorte une image indirecte du temps. En quoi consistait la révolution? La révolution consistait en ceci. C'est là-dessus que je voudrais que ce soit, il me semble. Parce que tout ça, c'est discutable en quel sens. On va le voir, c'est pour ça que ça m'intéresse, cette organisation. Eh bien, c'est pour des raisons, alors, qui ne doivent pas nous étonner, c'est celle de l'après-guerre. On n'y croit plus. On n'y croit plus. On n'y croit plus, ni personnellement, ni politiquement, ni etc. Le schème sensorimoteur est singulièrement mis en question. Est-ce qu'il n'était pas avant? Oui, il l'était avant. Bien entendu, il l'était avant. Mais toujours, il l'était avant sous forme d'aberration de mouvement. Tandis que maintenant, il ne s'agit plus des aberrations de mouvement. Il s'agit vraiment de l'état normatif ou normal. L'état normatif et normal, c'est que il n'y a plus de situation sensorimotrice. La situation sensorimotrice, c'est le vieux style. Ah, le vieux style. Qu'est-ce que nous avons? Quelque chose de tout à fait différent. Nous avons, je disais, des situations optiques et sonores, pures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement. Vous comprenez, là, il y a un contresens tout de suite à éviter. Quand vous avancez dans une recherche, vous faites à vous-même des objections. On pourra toujours me dire, le spectateur de cinéma, il a toujours été devant. Et dans des situations optiques et sonores pures, un point, c'est tout. Oui, bien sûr, mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit que le personnage, lui, sur l'écran. Il était dans des situations sensorimotrices. Ce qui est tout à fait nouveau, ça va être une race de personnages. En effet, mais c'est pas là. Là, c'est une manière de saisir plus clairement. Une race de personnages qui a la lettre au choix. Tantôt ne sait plus quoi faire. Tantôt n'a pas envie. De toute manière, la situation où il est excède les réponses motrices. C'est plus son affaire. Son affaire, c'est quoi? C'est voir et entendre. Alors, bien sûr, il continue à faire quelque chose. Là aussi, il faut à chaque fois mettre des nuances. Dès que vous avez une idée, il y a des nuances à y introduire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Finalement, c'est plus de l'action, c'est... Il y a 2 ans, j'en avais beaucoup parlé de ça, c'est de la balade. C'est de la balade. C'est le film balade. En jouant sur les deux sens du mot balade, la balade promenade et la balade poème chanté, dansé. C'est des films de balade. Alors, il peut bouger beaucoup.
Each night when I return the cab to the garage, I have to clean the back seat. Some nights I clean out the blood. 12 hours of work and I still can't sleep. damn. Days go on and on. They don't end. All my life needed was a sense of someplace to go. I don't believe that one should devote his life to morbid self-attention. I believe that someone should become a person like other people.
Prenez le chauffeur de taxi de Scorsese. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas de l'action. Son mouvement, ça consiste en quoi? À être perpétuellement en situation optique et sonore pure. C'est-à-dire, il voit par le biais du rétroviseur ce qui se passe sur le trottoir. Mais c'est ça que j'appelle être en situation purement optique et sonore. Et tous les personnages de cinéma qu'on dit modernes, à partir de l'après-guerre, je citais les exemples de Rossellini, si Rossellini est le fondateur de ce cinéma en Europe, c'est parce que, dans ses grandes œuvres du début, c'est ça, c'est pas le contenu social qui définit le néo-réalisme. C'est que le vieux réalisme, c'était le schéma sensorimoteur à l'état pur. Le néo-réalisme, c'est la rupture du schéma sensorimoteur. C'est le type qui se trouve devant une situation sauvage, optique et sonore, comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas de riposte. Il n'a pas de riposte. Il n'a pas de réponse. Il n'a pas de schéma moteur pour répondre à ça. Donc, je vous le disais, c'est un cinéma de voyant. C'est un cinéma de visionnaire. En d'autres termes, l'image a cessé d'être sensorimotrice, image-mouvement, dont découlerait une image indirecte du temps. L'image est devenue optique sonore pure, et en découle une image-temps directe, un cinéma de voyant. Et je vous disais, est-ce que ça veut dire que c'est la reconnaissance d'une passivité? Non. Bien sûr, il y a ça. Ça peut être des personnages charmants, ça peut être des personnages... ça peut être des bourgeois. Chez Rossellini, c'est des bourgeois très souvent. Donc, une fois, la bourgeoise d'Europe 51, la bourgeoise de Voyage en Italie. Chez Godard, au début, c'était des marginaux. Mais tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Des voyants. Des visionnaires. Alors, c'est là que se produit le renversement. Ce n'est plus le mouvement qui est premier par rapport à une image indirecte. Ce n'est plus l'image-mouvement qui est première par rapport à une image indirecte du temps. C'est dans suivant les exigences d'un chaîne sensorimoteur, mais maintenant, c'est des situations optiques et sonores pures qui nous ouvrent une image du temps direct, une image temps direct. On pénètre dans l'image du temps.
Vous êtes bien sur France Culture.
Dans l'extrait du cours du 13 novembre que vous allez écouter à présent, Deleuze s'interroge sur ce que provoque la rupture de notre lien sensorimoteur avec le monde. À partir du constat désabusé du cinéaste italien Roberto Rossellini, Deleuze revient sur ce qui lui paraît la fonction essentielle du cinéma moderne, rétablir le lien de l'homme avec le monde par l'intermédiaire de la croyance.
Cette espèce de monde vitrine qui procède par slogan, réclame, etc., mannequin, etc., où le caractère automatique prend en effet toutes les dimensions que vous voulez. À la limite, la rupture est telle que, qu'est-ce qui se passe? Nous ne pouvons même plus croire en ce monde-ci. Et ce que j'essayais de dire la dernière fois, c'est uniquement ceci, la rupture sensorimotrice, ou si vous voulez, la rupture de
la conformité de l'accord nature-esprit comme monde nous met dans une situation que le problème de la croyance remplace celui de la connaissance. À savoir, comment pourrons-nous croire à ce monde-ci tel qu'il est ? La question de la croyance n'est plus comment croire en un autre monde ou croire à la possibilité de transformer ce monde. Quelle raison ai-je de croire à ce monde ? Je ne reviens pas là-dessus puisque j'ai essayé de le développer beaucoup. Et je résumais ça là en suivant alors du coup Godard et voilà qu'on tombe sur. Si c'est le monde qui fait du cinéma, qu'est-ce qui se passe ? Si c'est le monde qui fait du cinéma, comment pouvons-nous croire au monde ? Qu'est-ce que nous demandons ? Qu'est-ce que nous demandons aujourd'hui ? Non pas croire dans un autre monde, non pas croire même aux possibilités de changer le monde. Nous demandons des raisons de croire en ce monde-ci tel qu'il est. Nous avons besoin dès lors d'une éthique ou d'une foi. Et j'invoquais Rossellini, parce que les textes de Rossellini me semblent admirables, lorsqu'il refait l'opération de Tolstoï. Nous avons tellement besoin d'abandonner l'art. Abandonner l'art, on parle toujours de ceux qui ont abandonné l'art, non, je ne sais pas qu'on en parle trop, dans des conditions qui restent malgré tout mystérieuses. L'arrêt Rimbaud, d'autres arrêts. Et puis, il y a un autre type d'arrêt, mais parmi les très grands qui ont arrêté, c'est donc Tolstoï qui décide que l'art ne vaut pas une heure ou ne vaut plus une heure de peine. Et Rossellini, il me paraît assez tolstoïen lorsque Rossellini dit en anglais, le cinéma c'est fini, du moins du point de vue artistique. Ce que je demande, c'est une éthique ou une foi. Pourquoi est-ce que l'art ne suffit plus ? Il le dit très bien, Rossellini. Et je veux dire, sa réponse vaut là pour ce point de mon analyse. C'est que l'art a complètement entériné la rupture de l'homme et du monde. L'art ne cesse de chanter la perte de monde. Et Rossellini dit très bien, je peux lire un court passage qui me paraît très beau dans Rossellini. Qu'est-ce qui m'agace, qu'est-ce qui me fâche dans le monde d'aujourd'hui ? Le monde d'aujourd'hui est un monde trop vainement cruel. C'est l'exercice d'un voyeur, d'un vicieux. Disons-le, c'est cruel. Je réagis violemment à ça, puisque je crois fermement que la cruauté est toujours une manifestation d'infantilisme, toujours. Tout l'art d'aujourd'hui devient chaque jour plus infantile. Chacun a le désir fou d'être le plus enfantin possible. Je ne dis pas ingénu, enfantin. De l'infantilisme, nous sommes tombés au plus bas de l'échelle humaine. Nous sommes passés au singe anthropomorphe. Nous en serons bientôt à la grenouille et à l'anguille, ça c'est bien. C'est ça qui me fâche, c'est ce manque total de pudeur. Cet infantilisme, nous l'avons vu dans le nouveau roman. Il a raison de la lettre si on définit l'infantilisme à part cette espèce de sentiment de la perte de monde, de rupture de l'homme et du monde. Cet infantilisme, nous l'avons vu dans le nouveau roman, nous le voyons sous une forme absolument incroyable en peinture. Nous en sommes arrivés à la vanité totale, au maladif. Et cela dans un monde qui devient tous les jours plus sérieux, plus complexe. Or, puisque ce monde est fait par des hommes, je dois toujours l'accepter malgré les plaintes dans le genre de « nous marchons à la destruction générale, la bombe atomique, etc. » Aujourd'hui, l'art, c'est ou bien la plainte, ou bien la cruauté. Il n'y a pas d'autre mesure. Ou bien on se plaint, ou bien on fait un exercice absolument gratuit de petite cruauté. Si vous pensez à la peinture bout d'organe, et des petits bouts d'organe, la peinture et tout ça, c'est vrai tout ça. Alors, il explique, bon, moi je fais plus tard. Et je vais vous faire un cinéma qui sera un cinéma de l'éthique ou de la foi. C'est-à-dire ce qu'il appelle un cinéma uniquement didactique. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Parce que pour lui, le problème, c'est pas entériner la rupture de l'homme et du monde. C'est trouver les moyens de redonner des raisons, quelles qu'elles soient, de croire à ce monde-ci. Alors, il peut être catholique. C'est un catholicisme qui n'a strictement aucune importance, sauf peut-être pour lui. Vous comprenez qu'à ce moment-là, catholique ou athée, je disais, il n'y a strictement aucune différence. Même les auteurs, c'est même frappant, que tous ces auteurs qui, après Kant, sont allés dans le chemin substituer la croyance au savoir. Tous ces auteurs ont fait en même temps une conversion de la croyance très curieuse. Je dirais, à mon avis, mais là, il faut être prudent, d'une certaine manière, c'était déjà comme ça chez Pascal. Si Pascal est un des premiers, avant Kant, à avoir mis la croyance plus profond que le savoir, et même à avoir remplacé le savoir, y compris le savoir mathématique, par la croyance. C'est parce qu'il faisait subir à la croyance ou à la foi aussi une conversion très curieuse, à savoir, la croyance et la foi consistaient à croire à ce monde-ci. Ce dont il s'agissait, c'était qu'on nous redonne le monde, qu'on nous redonne un lien de l'homme et du monde. Et c'était ça, croire. Croire, c'était retrouver une raison, ou trouver des raisons de croire au monde, c'est-à-dire un lien de l'homme et du monde. Alors quand Rossellini dit non, j'appelle infantile toute position qui tire sa joie de la rupture de l'homme et du monde. À ce moment-là, ça ne peut être que géniardise ou cruauté. Je réclame une croyance. C'est pas au nom du catholicisme. C'était déjà dans Kierkegaard. Kierkegaard, la croyance, ça consistait « redonnez-moi le monde ». Redonnez-moi le monde, ce monde-ci. Chez Pascal, le pari, c'est « redonnez-moi le monde, ce monde-ci ». Si bien que, en même temps que la croyance se substitue au savoir, la croyance connaît une conversion fondamentale, que, à mon avis, on retrouverait chez tous les auteurs qui participent à cette substitution de la croyance au savoir. Ils convertissent tous de manière très différente, tous convertissent la croyance, qui cesse d'être croyance dans un autre monde, pour devenir croyance dans ce monde-ci, c'est-à-dire restauration d'un rapport de l'homme avec le monde. Et ce que Rossellini veut faire, c'est précisément, et c'est pour ça qu'il invoque l'éthique par-delà l'art. C'est pas une question là, de morale comme ça, c'est qu'il pense que l'art est incapable de renouer un lien de l'homme et du monde. Il faut une éthique, il faut une foi, dit-il. Bon, de la même manière, quand je disais rapidement, Godard, tout le monde sait, et lui le premier le dit, ce qu'il doit à Rossellini. Je crois qu'il a très bien compris ça de Rossellini. Ce qu'il a admirablement compris de Rossellini, c'est que le monde fait du cinéma, comme il dit lui-même. Le monde, c'est devenu un cinéma. Dès lors, rupture de l'homme avec le monde. C'est la rupture, c'est l'effondrement du schéma sensorimoteur.
Marcello, devi andare a Don Pietro, sbrigati. Attacchi, Don Pietro!
Bisogna stringere un blocco compatto contro il comune nemico.
Non dubitate, non mi sfuggirà. Non è per sfiducia nei vostri sistemi, ma preferisco fare da me.
Se non finisce presto sta guerra io divento scemo.
Chi è?
Francesco, i tedeschi, i fascisti!
Nous sommes dans le monde comme devant des situations optiques et sonores pures. Nous sommes dans le monde comme devant une vitrine qui nous montre une série de choses abominables ou une série de choses excitantes, enfin, ce que vous voulez à votre choix. Nous demandons des raisons de croire au monde. C'est-à-dire, on est bien forcé. La rupture sensorimotrice signifie que nous n'avons plus de réaction pour ce monde. Dès lors, la seule possibilité pour que l'on retrouve des réactions, c'est d'abord de retrouver des raisons de croire à un lien de l'homme et du monde. À ce moment-là, sûrement. Si l'on retrouve un lien de l'homme et du monde, par là même, ce lien constituera une nouvelle forme d'action. Mais si vous ne retrouvez pas la croyance en un lien quelconque de l'homme et du monde, si vous ne rentrez pas dans la catégorie, comme dirait Kierkegaard, de l'éthique ou de la foi, une foi qui soit une foi dans ce monde-ci, pas question de retrouver de l'action. Alors, quand je dis Godard, il a compris quelque chose de Rossellini, c'est exactement la question qu'il pose au cinéma moderne. Et généralement, quand Godard pose une question, c'est lui qui répond. Il n'attend pas que quelqu'un d'autre lui donne la réponse. Ce sera à nous, dans le courant de l'année, de voir dans quel sens il va pour donner sa réponse. Mais si c'est vrai que le monde fait tout un cinéma, est-ce qu'il n'appartient pas au cinéma des cinéastes de mener la critique de ce cinéma que fait le monde ? Et à travers cette critique, de restaurer un rapport de l'homme et du monde. C'est-à-dire de nous donner une raison de croire au monde. Si nous ne croyons plus au monde dans la mesure où le monde fait du cinéma, est-ce que le cinéma n'est pas capable de nous redonner une croyance au monde ? Si bien que ce serait ça uniquement la fonction du cinéma. Je dirais non plus du tout nous donner l'illusion d'un monde, mais nous donner des raisons de croire au monde. Et en sens, le cinéma serait le seul art, ou peut-être le non-art, capable de nous donner des raisons de croire au monde. D'où la question, et qu'est-ce que c'est croire au monde ? On avait commencé à le voir, ben croire au monde. C'est forcément croire à la vie dans le monde. Et qu'est-ce que c'est croire à la vie dans le monde ? Dans ce monde-ci, là, croire à la vie dans le monde, c'est-à-dire que malgré les vitrines, il y a quelque chose qui vit. Ou entre deux vitrines, ou quelque part, il y a quelque chose qui vit. Si bien que croire ou retrouver des raisons de croire au monde, c'est quoi ? C'est avant tout croire au corps. Mais en quel sens croire au corps ? Et qu'est-ce que ça veut dire croire au corps ? C'est évidemment le corps qui est le lien de l'homme et du monde. Croire au corps, bon, alors le cinéma, dans son intention moderne, ce ne serait plus. Il aurait rompu avec le modèle du savoir, avec toute image du savoir et de la connaissance. Il serait passé du côté de la croyance. Ce serait l'art capable de nous redonner des raisons ou de nous donner des raisons de croire au monde. C'est-à-dire de croire à la vie ou de croire au corps. Bon, est-ce que c'est comme ça ? En tout cas, on voit bien les deux aspects. L'image moderne cinématographique est fondamentalement, je disais, une image coupée du monde. On verra de plus précisément pourquoi, mais j'invoque pour le moment uniquement les grands ancêtres du cinéma contemporain, soit Dreyer, image coupée du monde, type chez Dreyer. Bresson. Mais en nous donnant l'image coupée du monde, elle prétend nous donner des raisons de croire. Nous redonner des raisons de croire au lien de l'homme et du monde. Si c'était ça, ce serait une activité étonnante du cinéma. Il ne s'agirait plus du tout, encore une fois, d'interroger là, le rôle du cinéma par rapport à l'imaginaire, problème, moi je ne sais pas pourquoi, qui m'écœure d'avance, qui n'aurait sans aucun intérêt. C'est pas ça. C'est une question de croyance. Et ça ne veut pas dire croire à l'histoire qui se passe, puisqu'il n'y a plus d'histoire, justement. Non. Vous donnez des raisons de croire au monde. C'est la faute du monde. Le monde s'est mis à faire du cinéma. Bon, eh ben, c'est au cinéma de nous donner des raisons de croire au monde. Ça impliquerait au moins un caractère politique du cinéma. Alors, c'est ça qui m'amenait à mon second. Vous voyez, là, je fais des tout ça, on en est encore à construire notre programme, c'est de dire, mais je disais, le deuxième aspect, la deuxième mutation de la pensée, c'est donnez-moi un corps. Et j'avais dit la dernière fois, ben oui, c'est plus le corps qui gêne la pensée. C'est fini ça. Dans le modèle du savoir ou de la connaissance, ben, le corps, il sépare la pensée d'elle-même. Maintenant, donnez-moi un corps ou redonnez-moi des raisons de croire au monde, c'est pareil.
C'était Deleuze Retrouvé, 16 leçons de philosophie, réalisées à partir des enregistrements des cours donnés par Gilles Deleuze à Paris 8, déposés et archivés à la Bibliothèque nationale de France, choisis et introduits par David Lapoujade. Réalisation Thomas Jost, prise de son Benjamin Vignal, restauration sonore Grégory Vallon et Jean-Marc Potry, une série proposée par Camille Renard. Retrouvez tous les épisodes sur franceculture.fr et l'application Radio France.